Bien le bonjour les poussins. Bienvenue sur le podcast KPI, le podcast avec un seul et unique objectif, améliorer la santé des animaux par un meilleur accès à l'info. Aujourd'hui, je vous ai préparé un interview sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la fin de vie des animaux. L'entretien est avec Vincent Daté, fondateur d'Animacare. C'est une société qui cumule aujourd'hui un grand nombre de produits et de services qui ont comme objectif d'améliorer la fin de vie pour tous les acteurs concernés, c'est-à-dire l'animal, les familles et leurs vétérinaires. Parce que c'est un sujet qui m'émeut particulièrement et qui me rappelle sans doute certains moments difficiles en tant que vétérinaire ou encore propriétaire, eh bien, je bégaye un peu. Je cherche mes mots, mon discours n'est pas toujours des plus fluides. Heureusement, Vincent répond avec calme et sincérité et rattrape mes quelques bavures. J'espère que, comme moi, vous serez touché par la mission d'Animacare et que, malgré la podcasteuse bégayeuse, vous prendrez plaisir à écouter ce podcast. Voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'accueille Vincent Daté de la société Animacare. Bonjour Vincent.
Bonjour, bonjour Sophie.
Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast qui piaille. Ça me fait très plaisir.
Bonjour à tous, je suis vraiment content d'être là.
Alors, comme d'habitude dans ce podcast, comme tu le sais sans doute, c'est qu'avant de rentrer dans les détails qui concernent l'essentiel de ton activité, qui est la société Animacare, j'aime bien que les personnes me parlent un petit peu d'eux, un petit peu de leur histoire. Pour moi, quelque chose qui m'a vraiment marqué la première fois que je t'ai rencontré, c'est à quel point tu incarnais parfaitement ton projet, parce que tu étais quelqu'un de très calme, très bienveillant, et donc moi je ne connais rien sur toi, sur ton histoire, donc je serais ravie que tu partages un petit peu de tout ça avec nous aujourd'hui.
Ouais, chouette. Je suis Vincent Daté, j'ai 54 ans, vétérinaire depuis longtemps, hein, je pense depuis que j'ai l'âge de 6-7 ans, quand je recherche dans ma mémoire, je suis vétérinaire très très jeune. Après, j'ai eu cette chance d'avoir dans mon entourage familial des praticiens qui m'ont montré ce métier, qui m'ont montré la richesse du soin des animaux, du soin des hommes. Et donc, après quelques années d'études, j'ai été diplômé en 91 de l'école d'Alfort et j'ai travaillé dans différentes clientèles canines pour m'installer à Antony en région parisienne où j'ai exercé pendant 20 ans dans une clinique qui promettait de soigner l'animal pour rendre l'homme et l'animal heureux. C'est vraiment une notion de vétérinaire des hommes. Le soin de l'animal a pour but le bonheur, la plénitude de la famille. Simultanément, depuis le début des années 2000, j'accompagne des projets, des agences de pub, des entreprises autour de comment les clients vivent leur animal, autour du développement de leur activité. La place familiale et sociétale de l'animal de compagnie a beaucoup évolué ces dernières années. Et c'est ce qui me permet d'apporter des conseils à d'autres entreprises. En 2017, j'ai décidé de céder ma clientèle. Je pense que le premier moteur, c'est que j'avais envie d'avoir une cause plus large que le soin individuel, que le soin à l'animal ou à une seule famille, tout du moins. Et j'ai repris mon inventaire professionnel en essayant de trouver de la valeur et une identité forte. Le moment de la fin de vie est un moment unique parce que c'est un moment où les liens entre l'animal et la famille s'expriment. Donc j'ai créé Animacare, qui est un centre de ressources, une marque de qualité de prise en charge de la fin de vie, afin d'enrichir ce moment, d'enrichir les pratiques vétérinaires à ce moment unique de la relation triangulaire qu'il y a entre les professionnels, la famille et l'animal.
Ok, super. Alors, j'ai déjà beaucoup de questions, hein. Je vais essayer de d'affiner. Avant d'embrayer sur Animacare, qui est forcément ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, tu parles tu utilises un juste mot de cause plus large, et tu parles de ton histoire qui débute très tôt. Cette notion de cause, c'est quelque chose qui t'est venu vraiment au fur et à mesure, ou c'est quelque chose que tu as appris déjà très jeune tu parles de praticien dans ta famille?
Oui, la recherche de sens, hein, d'agir localement, de penser global, la recherche d'impact est quelque chose qui est dans ma culture, dans ma culture familiale, que nous avons la chance ici d'être dans une société particulièrement évoluée, mais qu'il y a peut-être d'autre part dans le monde où il n'y a pas toute cette connaissance, tout ce savoir. Et je crois que c'est vraiment des valeurs, ce sont des valeurs, hein, d'agir pour les autres qui me portent.
Donc, Animacare, alors, venons-y. Je pense que tu as très bien résumé la mission et la vision qui te porte aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que c'est Animacare? Donc, je pense que moi, j'ai en tête que d'une part, il y a une partie service vraiment du côté vétérinaire pour l'aider à mieux appréhender la fin de vie d'un animal avec sa famille. Et puis, d'autre part, des produits qui sont évidemment pour le vétérinaire, mais à disposition en quelque sorte du propriétaire. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais compris. J'imagine que tu peux détailler un peu plus pour tout le monde.
Oui, la place familiale de l'animal de compagnie a considérablement évolué ces dernières années. On le voit dans les prénoms humains qui sont affectés aux animaux. On le voit dans ces animaux qui dorment avec les familles, avec les maîtres dans leur lit. On le voit quand ces familles se considèrent comme papa ou maman de leur animal. C'est quelque chose qui est très présent dans notre quotidien de vétérinaire en relation avec des clients. Et la fin de vie, elle, la prise en charge de la fin de vie, n'a pas beaucoup évolué durant ces 25 dernières années. Tout du moins, l'évolution n'a pas été synchrone par rapport à celle de la place familiale. Donc, je me suis dit, en créant Animacare, que l'on pouvait peut-être apporter de nouveaux outils, de nouvelles techniques, de nouvelles formations pour les professionnels vétérinaires, afin qu'ils rejoignent encore plus les familles dans leur niveau logique de qui est cet animal pour cette famille, de cette personnification de l'animal et d'arriver à une gestion de la fin de vie qui correspond plus aux attentes et à ce que la famille a vécu avec son animal. Donc aujourd'hui, Animacare invente, fabrique, distribue des produits, des consommables pour les vétérinaires, des services, des outils de communication et des formations dont l'objectif est que tout le monde se sente mieux lors de la prise en charge de la fin de vie.
Vraiment, ça c'est du côté, ça c'est vraiment donc pour le vétérinaire. Donc c'est ça.
Voilà, ces produits, cette offre est pour les vétérinaires. Après, pour les familles, effectivement, je pense qu'on a un devoir de lever le voile sur comment ça se passe, sur les décisions qu'elles auront à faire, sur comment parler de la fin de vie à des enfants. On a besoin tous d'aider les familles à vivre ce moment qui est absolument unique pour l'animal et rarissime pour la famille. Donc, Animacare est aussi un centre de ressources pour les familles qui va proposer des lectures, des activités pour les enfants, qui va donner des renseignements très pratiques comme les adresses des différents crématoriums ou cimetières animaliers en France. Il y a effectivement une partie de centre de ressources aussi pour les familles.
Oui, j'ai vu sur ton site d'ailleurs, et c'est Sacha et Gribouille, je pense, une petite bande dessinée superbement bien faite pour accompagner justement les enfants, c'est bien ça?
Sacha et Gribouille, c'est une BD qui met en scène un singe et un dinosaure. Sacha, le petit singe, qui doit avoir 5-6 ans, est très triste parce que Gribouille, son dinosaure familier, est très malade et que ses parents explique à Sacha qu'il va falloir aider Gribouille à mourir. Donc Sacha et Gribouille est une bande dessinée d'une cinquantaine de pages qui clarifie la fin de vie pour les enfants de 2 à 7 ans. Cette bande dessinée est accompagnée aussi de conseils aux parents sur comment évoquer, comment parler, comment animer réellement la mort de l'animal, comment lever le voile pour des enfants de 2 à, pour des enfants de 2 à 7 ans.
Super. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Comme tu sais, je ne suis plus praticienne aujourd'hui, mais pendant mes presque 10 ans de carrière, c'est vrai que c'est des questions qui étaient fréquentes de la part des parents, de savoir si leurs enfants devaient assister à la fin de vie ou pas, et ce qu'ils devaient leur dire textuellement, comment ils devaient les encadrer et tout ça. Et c'est vrai que je me rappelle à l'époque, moi je les guidais tel que je pouvais, mais j'avais pas forcément de formation, d'aide là-dessus. Donc je pense que ça va bien au-delà de Sacha et Gribouille, notamment comme tu disais, tout ce qui est communication et formation pour le vétérinaire. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable, j'imagine. En tout cas, moi, je le perçois comme ça, et toi aussi.
Mais oui, parce que, comme tu le dis, c'est fréquent que les familles expliquent combien cet animal est essentiel pour les enfants. C'est fréquent aussi de voir des enfants amener leur animal en soins, et on tisse, nous, vétérinaires, une véritable relation avec ces enfants qui aiment beaucoup s'identifier dans le médecin des animaux. Et puis, c'est émouvant parce que les animaux ont cet art d'animer les petits-enfants qui sont en nous. Et donc, il y a parfois de la résonance. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions à gérer, la peine, la tristesse d'enfant, parce que c'est un enfant, mais aussi parce que ça résonne en nous. Donc, on peut se revoir dans cette même situation, dans ces morts pour les enfants autour de 5, 6, 8 ans, qui sont souvent des morts initiatiques, souvent la première relation à la mort que l'enfant va rencontrer. Et donc, le vétérinaire a aussi un rôle d'éducation ou un rôle pédagogique, tant pour la famille que pour l'enfant. Et s'il peut libérer la parole, s'il peut faire que cette mort devienne une expérience et non un événement, je pense qu'il y aura une gratitude et une fierté, une gratitude de la famille et une fierté de la part du vétérinaire et des ASV d'ailleurs à participer à cette expérience qui va permettre à la famille et à l'enfant de grandir.
Oui, tu soulèves un bon point, encore une fois, je pense, ce côté fierté qui est en fait plus souvent de la crainte aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'étais sur, pour ne pas citer de nom, un groupe Facebook qui est justement sur l'entraide des vétérinaires, etc., avec un post anonymisé sur de la part de quelqu'un qui avait beaucoup de stress, clairement généré au moment de cette fameuse euthanasie fin de vie. Si toi, ce que tu essayes d'amener, c'est de justement transformer cette crainte finalement en fierté, par exemple, et d'autres choses aussi, j'imagine.
Ce que ressent un professionnel lorsqu'il est amené à donner la mort, à déclencher la mort, est assez dissonant de ce que peut ressentir la famille lorsqu'elle le demande. Tout du moins, parfois, c'est dissonant. Pour la famille, demander une euthanasie, c'est dépasser son égoïsme. C'est accéder à son devoir ultime de bon maître. C'est-à-dire qu'elle va dépasser l'intérêt humain, l'intérêt personnel, pour se concentrer uniquement sur l'intérêt de l'animal, l'euthanasie étant alors le seul moyen de soulager la souffrance de l'animal, ce qui est une des missions premières de toutes les familles. L'animal est considéré par la famille comme un être vulnérable. La famille est là dans un rôle protecteur, dans un rôle de curateur vis-à-vis de cette vie vulnérable. Donc, beaucoup d'émotions de la part du vétérinaire qui pense que la mort est un échec, qui pense parfois que la mort est un échec, alors que ça peut être une délivrance. Ça peut être vraiment une réalisation de la relation lorsque il y a eu un temps de préparation qui a été suffisamment construit, lorsque la famille a été écoutée et entendue par tous ceux qui peuvent la comprendre et l'accompagner.
écoute, c'est très intéressant tout ce que tu nous dis là et très éclairant, je pense. Je pense que ce sera pour aussi toutes les personnes qui nous écoutent. Donc Animacare aujourd'hui, c'est essentiellement au niveau des petits animaux de compagnie, n'est-ce pas ? Tu ne fais pas encore de choses au niveau du cheval, par exemple, qui peut aussi être un animal de compagnie, bien sûr.
Ben oui, hein, le cheval a beaucoup évolué, hein, du cheval de travail, le cheval de sport, le cheval de loisir. Le cheval devient un véritable ami et prend une place très importante dans le cœur de son humain, de son cavalier. J'ai quelques articles, hein, autour du deuil du cheval. C'est quand même moins documenté que vis-à-vis des petits animaux de compagnie, les chiens, les chats et les autres espèces familières qui vivent dans les maisons. Je n'ai pas encore tout de suite de produits pour les chevaux, d'outils pour les chevaux, mais j'en ai effectivement en développement parce que le cheval, quand il meurt, va laisser un grand trou dans le cœur des familles. Et il y a moyen de combler avec des objets tangibles la présence de cette absence. Oui.
Mmh, tout à fait. Au-delà de forcément la brutalité de la séparation, ça peut être une mort physiquement qui peut être très brutale parce que le cheval pèse 500 kilos, il n'est pas toujours couché au moment où on doit lui donner la fin de vie. Et rien que pour ça, un accompagnement, j'imagine aussi, pour le vétérinaire, a vraiment sa place au niveau de la formation.
Oui, il y a besoin d'outils pratiques, hein, pour le vétérinaire, pour arriver à mieux réaliser, à mieux performer cet acte sur le plan médical. Et puis, il y a aussi besoin d'accompagnement psychologique des familles après le deuil. D'autant plus qu'effectivement, chez le cheval, il y a peut-être un peu plus souvent de morts rapides, de morts brutales, de décisions à prendre en urgence que pour le chien et le chat. Cette notion d'accompagnement psychologique au deuil est aujourd'hui réalisée par des professionnels médicaux ou paramédicaux très classiques, mais on voit se développer en Europe tout un ensemble de formations, de développement personnel qui sont dédiées au deuil animalier, spécifiquement.
Chose qui pourrait être faite peut-être par, évidemment par le vétérinaire lui-même, mais peut-être dans le cadre de la clinique par quelques AFD, oui. Par exemple, ce genre de choses.
Oui, bien sûr, ça peut être tout à fait un rôle de l'établissement vétérinaire, et à minima, si ce rôle n'est pas fait par les personnes de l'équipe, au moins connaître tout un ensemble de ressources, ça fait partie des ressources que les vétérinaires devraient pouvoir avoir à leur disposition et proposer assez facilement aux familles, assez naturellement aux familles, et pas les réserver dans des cas de deuil pathologique où la souffrance de la famille est évidente, mais le proposer en amont, en prévention, de douleur ou de chemin de deuil un petit peu compliqué.
Donc aujourd'hui tu travailles avec déjà pas mal de vétérinaires sur le terrain. Quels sont le genre de retours qu'ils te donnent depuis que tu travailles avec eux?
Ils ne mesuraient pas tous combien la prise en charge de la fin de vie était un moment impliquant pour l'équipe. C'est-à-dire que les décideurs, les titulaires de clinique qui font appel aux services et aux formations d'Animacare sont absolument enchantés d'avoir réussi à créer une dynamique d'équipe, à ouvrir la parole sur ce sujet et prennent conscience de combien l'équipe, les personnes ont besoin de parler, ont besoin de partager. Un moment qui, en général, est un colloque singulier entre un client et un vétérinaire. Ça se passe en général dans une salle de consultation fermée, c'est rarement débriefé en équipe, alors que chacun a une expertise et une expérience à partager pour enrichir celle de l'autre. Donc on arrive à construire de très beaux projets d'entreprise, de très beaux projets de clinique, très transversaux, qui vont faire interagir le collège infirmier et le collège vétérinaire, et ainsi à faire vraiment grandir la clinique et à développer une identité qui lui est propre sur ce moment qui est unique. C'est un moment qui va exprimer encore plus, qui va cristalliser les valeurs de la clinique.
Donc une portée qui va bien au-delà, en fait, de la gestion de la fin de vie, au final.
Oui, on est réellement sur un projet qui permet à l'établissement vétérinaire d'exprimer sa marque entreprise, d'exprimer son identité professionnelle en interne et en externe, bien sûr, en externe vis-à-vis des familles, vis-à-vis des clients, mais aussi en interne. C'est-à-dire qu'il y a des établissements vétérinaires qui me disent que les salariés sont fiers de travailler pour cette clinique maintenant qu'ils ont mis ça en place, ou qui expriment leur fierté maintenant que c'est mis en place, peut-être les étudiants, bien sûr.
Oui, mais qui a vraiment quelque chose qui crée... Ça ne m'étonne pas du tout, ce que tu me dis là, parce que c'est une place tellement importante dans le quotidien qu'au final, d'améliorer cette partie importante du quotidien, ça ne peut que avoir un effet bénéfique sur toute l'équipe. Donc tant mieux, super. c'est vraiment un super projet. je te l'ai déjà dit beaucoup, hein, mais je te le redirai sans doute, c'est sûr. alors dis-moi, donc Animacare, je pense, a pris forme ou a commencé à prendre forme en 2018, si je me trompe. Tu l'as dit, hein, au début de l'entretien, tu es encore au stade un peu d'évangélisation, que c'est petit à petit, comme on dit, qu'on construit ce genre de choses. Est-ce que tu penses qu'Animacare aurait survécu, c'est peut-être pas le bon terme, mais aurait pris il y a 10 ans, par exemple?
Je ne sais pas bien. J'ai créé Animacare en avril 2018. Effectivement, je suis encore dans un stade d'évangélisation parce que faire évoluer des pratiques sur lesquelles les vétérinaires font déjà bien les choses, leur proposer de faire mieux que bien, dans des registres qui sont considérés comme des registres psychologiques, qui sont considérés comme des registres où ils ne s'estiment eux-mêmes pas forcément très compétents, c'est un boulot qui est pas facile. Il y a 10 ans, l'animal était un animal de compagnie. Aujourd'hui, c'est un animal familier. Il y a 10 ans, c'était un chien de chasse, c'était un chien de garde ou de défense, un chien de quelque chose, un chien de compagnie. Aujourd'hui, c'est un chien familier. Donc, le marché tire cette évolution des pratiques vétérinaires. On le voit, les vétérinaires sont désormais beaucoup plus dans le care, prendre soin, que dans le cure, soigner au sens médical, au sens technique du terme. Donc, il y a une évolution de la société, il y a une évolution de la profession, il y a une évolution du métier qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je dois paraître encore très en avance pour beaucoup, mais il y a une adoption, il y a des early adopteurs, en un an on a 15% du marché, donc la preuve du concept elle est là, il faut juste avoir un petit peu de patience, un petit peu de promoteur pour espérer que ça devienne des pratiques de référence pour l'ensemble de la profession.
Et aujourd'hui, tu es bien implanté, je pense, en France, Belgique et Suisse également. Est-ce que tu notes déjà des différences culturelles qui sont propres à ces pays-là et qui pourraient, parce qu'eux, ils ont chacun leur gestion de fin de vie humaine, différente aussi. Est-ce que tu vois des choses qui peuvent être similaires ou qui découlent de justement cette gestion-là ?
Animacare est implanté en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Italie, en Allemagne et en Hollande depuis 3 jours.
Félicitations.
Effectivement, l'euthanasie humaine est légiférée en Belgique et en Suisse. Elle est officielle, elle est légale, elle existe à part entière, elle est organisée. Ce qui fait que dans ces pays-là, en Belgique et en Suisse, le vétérinaire n'est pas le seul professionnel médical qui peut donner la mort. Alors qu'en France, étant le seul professionnel médical qui a le droit de donner la mort, cela confère une aura très particulière au vétérinaire qui entend des remarques du type « Ah, au moins, mon chien, il a le droit, lui, d'avoir une euthanasie. Il a le droit d'être euthanasié. » Donc, il y a une aura très particulière du vétérinaire grâce à ce pouvoir de donner la mort en France qu'on ne retrouve pas tout à fait en Belgique et en Suisse, parce que les médecins humains ont le droit aussi, du moins le parcours médical humain intègre une euthanasie des hommes.
En gros, donc en France, comme tu l'as dit, donc on sait que l'euthanasie humaine n'est pas possible, et en Belgique et en Suisse, elle l'est. Et je me demandais, tu as très bien détaillé les différences, les implications au niveau du vétérinaire. Donc je me demandais si vraiment il y avait une implication ou une résultante vraiment pratico-pratique dans sa manière de faire. De cette différence-là. En gros, parce qu'en France, le vétérinaire euthanasie différemment, gère différemment la fin de vie qu'en Belgique et en Suisse, à cause de cette différence au niveau de l'humaine.
Non, j'en vois pas vraiment. C'est sûr que sur le parcours de l'animal décédé, il y a des différences avec certains pays comme l'Allemagne ou la Suisse, où il y a des pompes funèbres animalières qui vont prendre en charge le corps pour le transférer au crématorium ou l'enterrer dans un cimetière ou l'enterrer dans le jardin des familles. On a ces intermédiaires dans certains pays, notamment les pays alémaniques. Mais sur la réalisation technique de l'acte, je ne vois pas spécifiquement de différence par rapport à ce qui se passe en France dans ces pays-là.
D'accord. Tu parles aussi... J'étais voir évidemment un peu sur ton site, hein, faire mes devoirs. Tu parles bien évidemment des pays anglo-saxons et on a eu l'occasion d'échanger à ce propos plusieurs fois déjà. Mais j'aimerais qu'on partage un peu plus ça avec nos auditeurs aujourd'hui parce que la plupart des gens savent que les pays anglo-saxons ont aussi une façon d'aborder l'animal, le pet parent, comme tu l'as dit, le parent d'animal. Est-ce que tu vois une grande différence entre leur gestion de fin de vie à eux et la nôtre aujourd'hui? Est-ce que tu peux la décrire et d'où est-ce que tu, au-delà de ça, d'où est-ce que tu penses qu'elle vient, cette différence?
La personnification de l'animal est bien plus ancienne dans les pays anglo-saxons que dans les pays latins et en France. Cette personnification va se retrouver aussi dans la façon dont l'animal est prénommé et dans les expressions verbales. À partir de là, les liens qui unissent la famille et l'animal sont effectivement déjà des liens très forts avec un sens de la responsabilité qui est très élevé. Une médicalisation qui est aussi peut-être en avance, et cette médicalisation témoigne de l'implication de la famille dans la vie de l'animal. Donc oui, dans les pays anglo-saxons, on a une mise en scène de la fin de vie, on a une scénarisation tout du moins, qui est bien plus marquée, avec des cérémonies qui sont peut-être beaucoup plus fréquentes qu'en France, hein, au niveau de la fin de vie, avec du partage, de la publicité, c'est-à-dire des faire-part de décès qui existent dans les pays anglo-saxons, alors qu'ils sont assez rares en France. Il y a vraiment une façon d'exprimer ces émotions qui sont déclenchés par la relation à l'animal, qui sont beaucoup plus emphatiques globalement dans les pays anglo-saxons que dans les pays latins.
Et cette différence-là, est-ce que tu penses qu'elle va se maintenir ou est-ce que tu penses qu'on la rattrape petit à petit?
Dans les pays latins, il y a toujours beaucoup de pudeur, hein, autour du deuil, autour de la peine. Il y a encore beaucoup de gens qui disent « mais ce n'est qu'un chat, t'as qu'à en racheter un, ce n'est qu'un chien, je ne comprends pas pourquoi tu pleures ». Je pense qu'il y a tout un ensemble de tabous autour de la mort dans les pays latins qui existent beaucoup moins dans les pays anglo-saxons. Donc il n'y a pas que la place de l'animal dans la société, dans les familles qui est en jeu là-dedans, mais il y a aussi toute la relation à la mort qui est éminemment différente dans les différentes cultures. Mmh. Ça vient aussi de traditions religieuses, ça vient de beaucoup de choses.
Mmh. Ok, alors... Je sais que tu es sur pas mal de projets qui sont en train de prendre forme à gauche à droite, bah, notamment sur la formation, la communication. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu voulais partager avec nous aujourd'hui?
Oui, le principal projet est de créer un centre de formation dédié à la prise en charge de la fin de vie par les professionnels de l'animal. Les formations dispensées en école vétérinaire et en école d'assistante vétérinaire sont des formations globalement très techniques. Tout ce qui va être communication, gestion des émotions, psychologie, protection des soignants vis-à-vis de ce qu'ils peuvent ressentir et ce qu'ils peuvent vivre lors de ces moments est assez peu développé. Et il y a une attente des professionnels, des jeunes professionnels et même des étudiants d'un enrichissement de la formation sur ce pan de leur métier. Donc l'Anima Academy est le centre de formation d'Animacare et propose des webinaires, propose des ateliers pratiques, des journées complètes, propose de la formation en e-learning aussi, tout autour de la prise en charge de la fin de vie. Et c'est effectivement dans cette mission de transmettre cette cause, ça rejoint mon objectif de transmettre, que j'ai voulu mettre en œuvre lorsque j'ai décidé de vendre ma clientèle pour fonder Animacare.
Et aujourd'hui, est-ce que tu, parce que tu as parlé des étudiants, bien sûr, et ça allait être une de mes questions également, est-ce qu'aujourd'hui tu vas en université donner des cours déjà, ou est-ce qu'ils ont déjà, ou ça commence à venir, est-ce qu'ils commencent à avoir des choses au-delà du technique dont tu parles, ou bien c'est encore très inexistant?
Ah oui, les formations sur la prise en charge de la fin de vie en école vétérinaire se sont considérablement étayées ces dernières années. Mais c'est un moment qui interroge, c'est un moment qui fait peur, c'est un moment qui renvoie au petit enfant qui est en nous. Donc les étudiants ont une soif très très importante de formation sur ce sujet. Donc je fais des soirées en école vétérinaire, des ateliers, des groupes de parole et des webinaires pour les étudiants qui accueillent à chaque fois plus de 150 ou 200 étudiants et des sessions de questions-réponses qui n'en finissent plus. C'est passionnant leur volonté d'appréhender le plus possible ce moment est absolument passionnante et ce que j'essaye de leur transmettre, c'est qu'on peut essayer de tout anticiper, mais rien ne vaudra. Les premières expériences, c'est surtout d'écouter ce que l'on a ressenti, d'écouter ce que l'on a vécu et de le partager lors de ces premières expériences. C'est vraiment la première chose que je leur transmets. Vous pouvez essayer de tout savoir, mais rien ne remplacera de le vivre.
Et j'imagine que ça, c'est quelque chose que tu apportes comme accompagnement quand tu accompagnes les cliniques, justement, s'ils ont des jeunes vétérinaires qui commencent, de leur donner un peu les clés pour ce qu'ils doivent faire dans ces conditions.
Oui, toutes les cliniques qui vont rentrer dans la démarche Animacare, qui vont adopter toute la marque Animacare, qui vont l'afficher auprès de leur clinique, hein, sont des cliniques très impliquées et avec qui j'entretiens des relations très très proches. Et c'est fréquent que je reçoive des mails individuels ou des mails d'équipe, d'expériences qu'ils ont à tout prix envie de débriefer, envie de comprendre, mettre un petit peu de perspective sur ce qui s'est passé pour apprendre. En fait, c'est la richesse de la mort, c'est qu'il n'y a jamais deux morts qui se ressemblent, et ce qui importe, c'est d'en tirer du sens, de tirer du sens de chaque mort pour que la mort suivante soit différente.
Alors, encore quelques questions, et puis je te lâcherai. Donc là, tu m'as parlé de les formations. Est-ce que il y a d'autres projets à l'avenir? Peut-être que donc tu ne peux pas nous parler, donc évidemment, tu nous diras rien. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses à plus longue échelle, on va dire, enfin plutôt moyen terme, long terme, dans ta vision, d'où tu te projettes, tes objectifs pour les 5 prochaines années?
Oui, je l'ai évoqué un tout petit peu dans la question précédente, hein. Animacare est une démarche qualité, et dès lors que c'est une démarche qualité, si on s'engage dans ce sens-là, on doit pouvoir l'afficher au client. Alors, une marque peut s'afficher au public à travers des engagements de qualité que l'on met en salle d'attente sur son site internet, sur sa page Facebook. Je pense que les établissements vétérinaires sont maintenant prêts, ou du moins j'en connais beaucoup, qui sont prêts à communiquer sur la façon dont ils prennent en charge la fin de vie, tant cela reflète leur projet professionnel, leur marque entreprise. Donc c'est une notion de label, de charte, qui sont des mots très réglementés qui ne conviennent pas à la profession vétérinaire française. Donc disons que c'est une notion de démarche d'amélioration perpétuelle du service de fin de vie des cliniques vétérinaires, c'est la création de services de fin de vie au sein des cliniques vétérinaires.
Ce qui est énorme, parce que c'est vraiment ce que tu disais avant, c'est vraiment passer au-delà du tabou, en fait, hein.
Mais oui, Annie Macaire fait la promesse d'enrichir la prise en charge de la fin de vie. Pour l'enrichir, il faut déjà lever le voile pour se rendre compte de comment ça se passe, pour ensuite écouter les attentes des familles et faire mieux. Mm-hmm. Donc oui, bien sûr, c'est de lever le voile. Ça passe par là, l'enrichissement. C'est de montrer ce qui se fait pour que les pratiques actuelles rencontrent les réelles attentes des familles, bien entendu. Et on voit d'ailleurs des super initiatives de cliniques vétérinaires qui acceptent maintenant ou qui publient sur leurs réseaux sociaux des épitaphes pour des animaux qui ont soigné. Je trouve ça assez extraordinaire de voir un vétérinaire. Il est très touchant de voir un vétérinaire dire au revoir à un animal qu'il a soigné. Je trouve ça vraiment très chouette, et de le dire publiquement.
Oui. Et tu l'as évoqué plus tôt dans l'entretien, cette dissonance entre la perception du vétérinaire et la perception du client. Et c'est vrai que moi, personnellement, en tout cas quand je travaillais en Angleterre, on recevait beaucoup de remerciements autour de la fin de vie, alors que souvent c'est quelque chose qu'on appréhendait. Moi, quand j'appelais des clients et que j'avais pas eu de nouvelles depuis longtemps sur un animal, j'avais peur qu'ils me disent que l'animal soit mort ou des choses comme ça. Et en fait, il y a vraiment une grosse différence entre ce vétérinaire et ce que le client attend. Et j'imagine que le client, pourquoi je dis ça, c'est que le client, quand il doit voir propriétaire d'animal, quand il voit ça, ça doit vraiment lui faire quelque chose de chaud au cœur quelque part, de voir que son vétérinaire pense à lui et pense à son animal. Et je trouve ça super aussi.
Cette transparence, savoir montrer la réalité de ce qui se passe dans un établissement vétérinaire, c'est le prérequis à la confiance qui est nécessaire à établir une relation de soins. La transparence est le prérequis de la confiance. Donc, plus le vétérinaire arrivera à dire ce qu'il fait, à faire ce qu'il dit, plus la clientèle au sens large, l'ensemble de ses clients, arriveront à construire une relation de confiance avec lui, bien entendu. Et dans le cas que tu cites, hein, c'est-à-dire tous les gestes de gratitude que l'on reçoit à une prise en charge après le décès d'un animal, c'est ce que je disais, cette gratitude, elle est le signe que le vétérinaire a permis à la famille de ne pas être égoïste, de ne pas penser à elle, d'accéder à ce devoir de bon maître, d'exprimer son amour. L'euthanasie est un geste d'amour.
Enfin, je dois dire, même de le voir sous cet angle-là, je pense que c'est vraiment très éclairant, j'imagine très éclairant pour le vétérinaire aujourd'hui. Quand tu leur dis ça, ça doit susciter pas mal de réactions, non ? Au vétérinaire, quand tu commences à leur parler d'Animacare, de ton approche, etc., ça les interpelle.
Dès lors qu'il arrive à revenir à sa vocation, aux raisons intimes du petit enfant qui a fait le choix de ce métier quand il avait 6 à 8 ans, oui, ça résonne très fort et ça enclenche très vite, effectivement.
Ok. Juste avant de terminer, j'ai couvert pendant cette période de Covid aussi la partie Covid du projet et je me posais deux questions. La première, c'était: est-ce que dans les clients, dans les vétérinaires que tu accompagnes, est-ce que tu as des demandes particulières par rapport à la gestion de fin de vie pendant la crise? Et ma deuxième question, c'est comment ça avait peut-être impacté toi et Animacare directement ou indirectement?
Il y a eu une partie dramatique de cette crise en termes de sémantique, c'est lorsque la société a parlé de distanciation sociale. Mais bon Dieu, non, on doit arriver à faire société avec une distanciation spatiale, une distanciation physique. J'ai vu sur des réseaux sociaux, des groupes de vétérinaires et d'autres professions, des gens se réjouir de soigner l'animal en l'absence des familles. Et je dois dire que ça m'a vraiment beaucoup affecté. Animacare, en fait, j'aurais pu l'appeler vétérinaire des hommes. On ne peut pas être vétérinaire d'un animal qui est mort. Mais on est le vétérinaire à ce moment-là, on est le vétérinaire des hommes. Donc, effectivement, la distanciation physique est absolument indispensable pour tout le monde, que ce soit le client ou que ce soit le professionnel, parce qu'on doit se protéger pour pouvoir continuer à œuvrer. Mais on doit aussi arriver à faire société. Alors, faire société, c'est peut-être utiliser des moyens de communication modernes, c'est peut-être faire une préparation à l'euthanasie en visio avec les familles, parce que le contact visuel est essentiel pour récupérer les émotions et qu'on le récupère bien mieux qu'au téléphone. Peut-être qu'on doit se mettre dans les meilleures conditions possibles, faire dans un jardin, dehors, pour éviter un confinement et une charge virale dans l'atmosphère trop élevée. Mais on doit arriver à faire société avec la famille à ce moment unique de la fin de vie de l'animal, à ce moment de le revoir. Donc, bien sûr, il y a des trucs pratiques, on peut utiliser des prolongateurs de perf pour se tenir un peu plus loin de l'animal, on peut... il y a plein de choses pratiques, et j'en ai fait des conférences, mais c'est pas là le débat. Le débat est vraiment, puisque cette distanciation physique, cette distanciation spatiale va durer, c'est mettons tout en œuvre pour continuer à faire société avec les familles dans ce moment de le revoir. Ce moment de revoir, c'est pas la dernière consultation, en fait. Il faut la considérer comme l'avant-première suivante. C'est ça qui compte.
J'ai presque envie de terminer là-dessus. C'est vraiment magnifiquement résumé. Donc, du coup, je voulais dire, pour clôturer, est-ce que tu aurais... Finalement, ça pourrait être le message, mais est-ce que tu aurais un message supplémentaire pour les vétérinaires, par exemple, qui voient l'euthanasie comme étant, on en a parlé, une difficulté suprême dans leur travail, et d'autre part, un message pour les propriétaires qui sont face à cette décision qui est souvent si difficile à prendre.
Oui, que la mort, c'est pas tout à fait la fin, que la mort, c'est juste un moment où le lien charnel devient spirituel, et quand il est spirituel, ce lien, il est complètement intemporel. En fait, c'est un animal qui va devenir bien plus immatériel, intangible, mais il va devenir quelque part éternel. Et en fait, on n'oublie réellement jamais, on vit avec. C'est vraiment là la différence. Et le rôle du vétérinaire est de permettre que cette vie avec l'animal mort soit aussi harmonieuse que ce qu'il a permis d'avoir lorsque l'animal était vivant. Voilà ce que j'ai envie de dire.
Ben écoute, j'en ai presque les larmes aux yeux. Je trouve ça vraiment très beau. En tout cas, je le redis une dernière fois. Vincent, Animacare est un projet, je pense, vraiment fabuleux. Je suis en admiration. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ces moments, ces paroles avec nous et d'être joint à moi aujourd'hui. Merci beaucoup.
Beaucoup de plaisir à cette interview. Merci à tout le monde. Merci.